bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Soyez les bienvenus, merci de nous rejoindre avec Leïla Gadeboudadi, Marina Rollman, Albert Algou, Daniel Morin.
Bonjour Marina.
Tout à l'heure, Tanguy Pasturo et notre invité, l'excellente Catherine Pro.
Bravo.
Bonjour Catherine.
Bonjour.
On est ravis de vous accueillir dans cette bande originale, d'autant que nous avons énormément parlé de vous hier avec vos camarades, vos amis. Bertrand Blier notamment, et même carrément vous a qualifié de membre de la famille, d'ami de la famille en tout cas. C'était très
oui,
intime.
Bah, je connais bien Bertrand Blier depuis un moment. Et d'entre... sa femme et sa fille.
Et d'entremetteuse aussi, parce que c'est un peu grâce à vous, Christian Clavier, à jouer dans Convoi exceptionnel.
Bah oui, disons qu'on en a parlé, si vous voulez, mais à la fois c'est tout simple cette affaire-là. C'est comme, je me souviens très bien qu'il y a quelques années, c'était Jacques Villeray qui avait dit à Francis Weber, Catherine pourrait faire Marlène sa sœur dans le Dîner de cons. Et vous voyez, c'est des échanges d'acteurs, des sympathies comme ça.
Mais c'est d'autant plus sympathique que c'est totalement désintéressé. Vous n'êtes pas dans le film de Bertrand Blier, c'est par amitié.
Oui, par amitié.
Et apparemment, vous avez répondu à une question apparemment, délicate de Bertrand Blier sur Christian Clavier. Il vous a demandé, est-ce qu'il était chiant.
J'ai dit non, ça va. Ça fait quelques jours qu'on avait commencé. Hein.
Non, mais pourquoi ça a changé après?
Non, ça s'est très bien passé. Y a
et
pas
apparemment, ça s'est bien passé aussi sur le Convoi exceptionnel. En plus, le film est sorti hier et rencontre son public et son succès. Et tant mieux pour Blier, Depardieu, Clavier qui étaient nos invités hier. Ce qui est amusant aussi, c'est que lorsque on a posé la question à Bertrand Blier si c'était important ou pas d'être chiant ou de ne pas l'être pour être sur son plateau, il dit, ah ben non, mais même si elle m'avait dit oui, il est chiant, je l'aurais pris quand même.
Ben voilà, mais ça m'étonne pas de lui.
Voilà.
Non, mais c'est sûr.
Là, je ne sais pas qui a été l'entremetteur pour vous permettre de jouer sur Qui m'aime me suive de José Alcala. C'est vous qui étiez à l'origine du projet. Comment ça s'est monté?
Oui, plus ou moins, parce que j'avais déjà fait un film pour José Alcala, un film plus grave qui s'appelait Coup d'éclat. Et là, voilà, il a fait vraiment... C'est une bleuette assez géniale dans son genre.
Histoire d'amour.
Voilà, histoire d'amour. Et donc j'étais un peu au départ parce que je le connaissais. Voilà.
Qui m'aime me suive, le film sort mercredi prochain avec Daniel Auteuil, avec Bernard Lecoq. Et comme elle est au milieu dans l'affiche et dans les noms, vous êtes vraiment au milieu de l'histoire des deux, de Daniel Auteuil et de Bernard Lecoq. Et Lecoq avec cette histoire d'amour, ces histoires d'amour possibles ou impossibles, on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord des questions sur Catherine Fro. On la connaît, oui, mais est-ce que vous savez comment elle se maintient en forme?
Yoga,
barre au sol,
Pilates,
marche, randonnée.
Bon, allez, tout ça c'est bon. Bah, ouais. Yoga essentiellement.
Ah bon? Ah non, moi pas du tout.
Bon ben voilà, c'est pour ça.
Voilà.
Pas de yoga, non.
Dans Marie-Claire, une interview, vous dites, je marche beaucoup, je traverse Paris et je pratique le yoga.
Ah non, ouais. Je marche beaucoup, je traverse Paris, oui. Je me promène beaucoup à
très
pied.
Très bien, donc le point n'est pas pour Daniel.
Le yoga, c'est bizarre.
C'est dans Marie-Claire.
Mais bon, j'ai dû en faire 5 minutes à un moment.
Ah, voilà.
C'était juste avant l'interview.
Le point est pour moi. 5 minutes.
C'est non, monsieur.
Pour moi.
Et le plaisir de la marche dans Paris, c'est pour flâner, c'est pour éviter les embouteillages.
Je sais pas, j'adore. J'adore. Ah oui, effectivement, parfois, il y a des horaires un peu moins géniaux, mais enfin, j'adore flâner.
Et vous avez vos quartiers ou c'est vous baladez le...
Moi, je suis plutôt dans le sud de Paris.
Le nez au vent, donc vous regardez
les monuments. Et je traverse Paris, quoi. En 1h15, je suis à Montmartre, vous voyez.
Ah oui, vous traversez vraiment.
Entre Montparnasse et Montmartre, 1h15.
Ouais.
Mais si, par exemple, vous jouez au théâtre, est-ce que vous iriez chaque soir au théâtre à pied?
Oui, théâtre Antoine, j'y allais. Oh, pas tous les soirs. Le samedi et le dimanche, oui. Quand il fait beau. Choisis mes jours, mais je le fais souvent.
Ouais, d'accord.
J'aime bien.
Mais c'est bien la marche.
Mais maintenant, il y a les trottinettes. Ça me donne envie, les trottinettes. Sauf que les trottinettes, elles sont électriques et qu'on bouge pas, en fait.
On trottine pas.
Non.
Bah non.
C'est vrai qu'il y en a qui sont pas électriques, hein. Vous pouvez, des trottinettes d'enfants.
Oui, je sais. Bah oui, je sais. Non, mais c'est beau, les trottinettes. Non, mais j'adore.
Toutes celles qui sont en location sont électriques.
Ces nouveaux moyens de transport, je trouve ça magique, quoi. Franchement.
Oui, mais enfin, pardon.
Bientôt, on va avoir des gens qui vont s'envoler, qu'on va avoir des petites ailes. Tout est possible aujourd'hui pour circuler, là, dans Paris, c'est génial.
Donc c'était plus le mode, c'est pas l'exercice physique qui vous attire dans la marche?
Si, quand même, si, bien sûr.
Un peu quand même, d'accord. Petite, Catherine n'avait pas le droit, apparemment, d'aller au... On va voir si c'est vrai ou faux encore. Elle n'avait pas le droit d'aller au catéchisme, mais que faisait-elle en cachette?
Elle priait.
Elle espionnait...
Elle parlait à Jésus.
Elle lisait la Bible.
C'est pas loin, ouais. Non.
Elle faisait des miracles.
Non.
Elle avait un... Comment ça s'appelle? C'est un chapelet ou un chapelet comme ça?
Elle multipliait les petits pains.
Non. Elle parlait à Jésus.
Elle avait une Sainte Vierge lumineuse achetée à Lourdes.
Non.
Elle buvait de l'eau bénite.
Non, c'est pas loin de la prière. C'est pas loin de parler...
Elle faisait des sermons.
Non. Mais qu'est-ce qu'on fait?
Elle s'adressait à Dieu et à ses saints.
Mais oui, mais à quelle occasion?
Elle faisait des vœux.
Le dimanche
à l'église.
Matin.
Elle allait brûler un cierge.
Non.
Elle avait des apparitions.
Mais non.
Le soir, elle
des hallucinations.
Oh, quelle bande datée.
Dans son journal, elle écrivait des lettres.
Mais non. Mais qu'est-ce que l'on
elle
fait?
Elle se flagellait.
Mais alors, pas loin.
Oh.
Elle se punissait.
Elle
faisait des Ave Maria.
Oui, pas loin. Mais
eh ben, elle se confessait.
Oui.
Et c'est moi qui trouve.
C'est fatigant tout ça. Vous alliez à la confesse alors que vous n'avez pas le droit d'aller au catéchisme.
Absolument. J'avais du mal à me trouver des défauts, d'ailleurs des péchés, je n'en avais pas.
Oh bah bougez pas,
j'inventais des péchés.
Ah ouais, c'est mignon.
Ah, vous inventiez des histoires.
Pour être puni.
J'étais petite, hein, j'inventais des péchés.
Mais oui, c'est pour être puni.
Ah ouais, c'est trop mignon.
Mais bon, je devais en faire, mais je m'en souvenais pas. Quoi. Mais j'allais à confesse en douce, ça me fascinait. C'était assez théâtral, je pense que ça m'a donné le goût de jouer.
Pour quelle raison Catherine Froid a-t-elle raté son bac?
Elle n'y a pas été.
Oui, mais pour quelle raison?
Elle était malade, elle voulait pas le passer, elle avait
une
peur.
Une audition.
Panne de trottinette.
Elle était en retard.
Une histoire d'amour.
Non.
Une panne
elle a oublié.
Non.
Elle est allée au cinéma.
Elle a vraiment fait un choix. Alors, c'est une manière...
Elle avait un rendez-vous galant.
Elle est partie à Paris.
Elle a, elle a pris des cours de théâtre.
C'est pas loin, tout ça. C'est un rapport avec son métier.
Elle allait à un casting.
C'est plus que ça.
Elle avait son premier rôle.
Un tournage.
Un tournage, ouais.
Ouais, mais bon, je vais le donner à Daniel, parce qu'il a fait beaucoup, là, quand même.
Ah, quand même.
Non, là, t'as fait beaucoup,
Merci.
À cause d'un tournage d'un téléfilm. C'est-à-dire, vous avez préféré tourner un téléfilm plutôt que d'aller passer le bac.
Yes. C'était, je faisais la fille de Marina Vladi, et c'était mon premier jour de tournage, c'était le lendemain, et j'avoue, j'ai raté le bac.
Non, mais là, c'est pas rater le bac, c'est faire le choix.
De pas y aller.
C'est
éliminatoire.
De tourner, c'est d'abord votre.
Oui, mais j'avais fini mes épreuves. Mais j'étais complètement la tête ailleurs. Et le lendemain, le lendemain de la dernière épreuve, voilà, que j'ai tout raté, enfin bref.
Et vous l'avez repassé après?
Je suis partie tourner.
Donc en fait, vous avez plutôt la tête ailleurs. C'était pas de l'absentéisme, c'était, j'ai pas le temps de réviser.
J'étais plus motivée.
Bon, bah, ouais, mais en tout cas, le choix était au rendez-vous. Le bon choix était au rendez-vous. Sa grand-mère n'a pu voir Catherine qu'une fois au théâtre. Que s'est-elle exclamée quand elle est entrée sur scène?
C'est ma petite fille.
Exactement.
Fort, fort dans la salle. On l'a entendu.
Je l'ai
entendu.
C'est ça.
C'était pas un truc dit tout bas au premier rang, non. C'était énorme.
C'est mignon.
C'était trop beau.
Pour voir une première pièce, vous vous souvenez de la pièce que vous jouiez?
Qu'est-ce que je jouais à l'époque? Oh mince. Ah oui, une pièce de Giraudoux.
Et dans ce cas-là, on est troublé parce que on a entendu la voix de votre grand-mère.
Il y a eu un grand éclat de rire. C'était à Rochefort-sur-Mer où il y avait tous les fros dans la salle. Il y avait donc deux rangs pleins de fros et ma grand-mère qui était là devant. J'ai ma petite fille. Et là, on a entendu un énorme éclat de rire. Ça fait un lever de rideau.
Qui est Zavatine?
Le sœur de Zavata.
Son clown, le chat, son animal de compagnie, son personnage imaginaire.
Oui. Personnage imaginaire.
Ah, mais je trouve ça me touche beaucoup que cette histoire, maintenant qu'on me connaît quand même populairement depuis une vingtaine d'années, je vais dire, eh ben, ça me touche beaucoup que cette histoire soit restée gravée dans certaines mémoires, dont la vôtre. Parce que cette Zavatine, effectivement, je pensais pas que ça marquerait. Mais bon, c'était mon histoire en CM2. J'avais donc quelque chose comme 9 ans. Et tout, à chaque cour de récréation, j'animais la cour de récréation.
Et vous réunissiez des copains autour de vous et vous racontiez des histoires de Zavatine.
Tout le monde venait, et entre trois arbres.
Comme un griot.
Je faisais, Zavatine va chez le docteur, Zavatine va faire le marché, et je prenais un des élèves au hasard, et on faisait un spectacle pendant un quart d'heure de récréation.
Et le Zavatine, comme a dit Albert, était inspiré du clown Zavata ou pas?
Ah oui, Zavata. Ah oui. Mon père nous emmenait tout le temps voir Zavata au cirque.
Parce que resté en contact avec Zavatine Non.
Non, pas vraiment, non.
Pauvre Zavatine.
J'ai été à l'enterrement de Zavata. Je peux vous dire, c'était extraordinaire. Au Père Lachaise, j'adorais ce clown. Hein. C'était un clown acrobate, digne d'un Charlie Chaplin dans sa manière de, dans son art. Et j'ai été à l'enterrement de Zavatta et il y avait plein de barrières. Je suis arrivée très en avance et au Père Lachaise, là-haut, mais on n'était que 80. Alors qu'il y avait des barrières pour 500 personnes. Alors qu'il était très populaire, mais c'était incompréhensible. Il neigeait ce jour-là. Est arrivé d'en bas du Père Lachaise un énorme chariot avec son visage fait en rose, avec des fleurs. C'était d'une beauté. Les chevaux avaient des espèces de plumes. Et derrière, il y avait des clowns blancs et leur saxophone qui jouait une litanie merveilleuse dans la neige. Franchement, la mort de Zavatta, voilà, je vous raconte ça. Ouais, c'est triste et beau.
Que fait souvent Catherine Froh avant de monter sur scène?
Elle boit un coup?
Non.
Elle prie.
Elle fait une sieste?
Non, oui.
Ouais.
Exactement. Petite sieste, petit roupillon.
Ah oui. Mais c'est le trac qui fait ça.
Ah oui, ça. Mais comme si c'était une obligation.
Faites pas du yoga.
Non, elle dort.
Non, mais presque, oui. Non, j'avoue, j'ai une somnolence assez grave.
Mais vous dites c'est le trac. J'ai l'impression que le trac empêcherait plutôt de dormir, non?
Oui, bah moi c'est une fuite, fuite en avant.
Est-ce que ça vous permet d'apprendre aussi, de revoir le texte, de vous passer les lignes en vous endormant pour mieux les connaître?
Vous savez, ce moment-là, avant d'entrer en scène, c'est quand même un enfer. Faut le savoir. Hein. Il y a quelques minutes terribles, mais il faut les vivre. Il faut passer le mur. Du son.
À chaque fois donc. Et à chaque fois c'est pareil.
Oui, ou surtout dans les premiers temps.
Oui, voilà.
Surtout pendant un mois ou deux, je dirais.
Au théâtre, mais au cinéma.
Au cinéma, non. Non, parce que c'est différent. Le cinéma, c'est plus technique.
Oui, mais si
on se jette à l'eau au théâtre. Ouais. Hein,
si on se trompe, on fait une autre prise. Alors qu'au théâtre, on n'a pas le droit à l'erreur.
Exactement, il y a un danger énorme.
Oui. Et vous endormez sur scène parfois?
Non.
Est-ce que c'est pas aussi une excitation saine, le théâtre?
C'est pas une
excitation. Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous pousse finalement à faire des choses que vous feriez peut-être moins au cinéma?
Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est quelque chose.
Il y a un point de non-retour. Donc une fois qu'on est sur scène, il faut y aller.
Oui.
Quoi,
il y a ce qu'on appelle la transformation. Vous devenez réellement ce que vous allez proposer, donner à voir et à entendre est important. Il faut que ça soit perçu et il faut que ça soit vécu. Donc c'est un drôle de truc, mais qui pour moi me fait jubiler.
Qui m'aime me suive. Le film est signé José Alcala. Le temps dure longtemps et la vie sûrement. C'est vraiment, avec cette musique qui fait partie de la bande originale du film, on est vraiment dans l'ambiance, dans l'humeur de ce couple ou de ce trouple avec Bernard Lecoq, Daniel Auteuil et vous. Vous êtes, dès le début, au moins là je ne divulgue gâche rien, dès le début vous êtes dans le lit de l'un pour aller rejoindre la maison de l'autre.
Ouais. Les deux maisons sont face à face.
Et puis un officiel et un moins officiel.
Y a le mari,
C'est Daniel Auteuil même, et Bernard Lecoq qui a une petite queue de cheval très étonnante.
Oui.
Et votre amant.
Mais c'est Gilbert, Simone et Étienne.
Étienne.
Qui ont toujours vécu quasiment ensemble, qui étaient probablement d'anciens babacools.
Oui.
Hein, c'est la queue de mai 68, c'est la fin des années 70, c'est elle un peu plus jeune qu'eux, mais quelques années, et c'est des inséparables en fait, hein. C'est vraiment, mais c'est aussi une génération qui a vécu dans cette libération-là, dans ces idéaux-là, dans le Larzac, les Clarks, les Pat Def, le Peace and Love.
Et c'est aussi un cadre, un village qui est en train de fermer petit à petit avec des personnes qui s'en vont. Il n'y a pas forcément une nouvelle génération qui arrive. Et pourtant, si, il y a des repreneurs de certaines affaires. Lui, il a un garage, Daniel Auteuil. Vous le poussez à le transformer, ce garage, avec une tonnelle pour faire une pizzeria. Vous avez envie d'accueillir du monde et de faire une pizza au feu de bois.
En fait, c'est des gens simples, qui n'ont pas grand-chose, hein, les fins de mois sont pas aisées, mais qui sont dans la vie.
Ils sont même à découvert, hein, ils ont même des problèmes.
Ils sont même à découvert, il y a les huissiers.
Ouais, voilà. Huissier qui est là.
Oui, ça va pas terrible.
Il travaille dans les champs parce qu'il faut ramener un peu de sous parce qu'il a la retraite et ça suffit pas.
Puis Gilbert, il est un peu aigri, hein, il est limite un peu raciste. Ça va pas, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens, les garçons, ils arrivent près de 70 ans quand même. Donc là, c'est une retraite avancée et ils se retournent et ils se disent, waouh, tout est passé déjà. Mais j'ai encore envie de vivre, mais qu'est-ce que je vais faire, etc. Et c'est tout à coup cette fille qui va, elle, qui en a marre de son Gilbert qui est hyper éteint, pour qui veut se réinventer.
Oui, et puis continuer de vivre, on en reparlera avec Isabelle Duvernoy qui est psychologue et psychothérapeute, elle veut vivre sa sexualité. Il n'y a pas de retraite pour le sexe.
Ah non, pour elle, non, ça c'est clair.
C'est un joli nom d'émission.
Mais pour eux non plus. Hein. Quoi ?
Ce sera un joli nom d'émission, il n'y a pas de retraite sur le sexe.
Vous dites pas pour elle et pas
pour... Pas pour elle et pas pour eux non plus, ouais. Apparemment. Non, ils sont dans la vie, quoi.
Non, mais Daniel Auteuil est réveillé par cette aventure qu'il constate entre son ami et sa femme. Parce
peut-être
que
bien.
Pendant un moment, il n'est pas non plus enclin, il s'en passe assez facilement. Mais après, ça le pique au vif et il veut s'y remettre.
Probablement. Mais elle, finalement, son envie de liberté va libérer tout le monde.
Ouais.
Elle va les contaminer.
Voilà. Non, puis c'est ça les nouveaux grands-parents. Aujourd'hui, il y en a aussi les grands-parents, ils étaient jeunes dans les années 70. Mmh. Donc aujourd'hui, il y a des grands, parce qu'il y a quand même l'histoire avec le petit-fils. Enfin, il y a tout un raccommodage familial là qui est vraiment émouvant et marrant.
Oui, mais
comme
dit Daniel Morin, le fait que vous partiez, que vous quittiez, ça encore une fois, je ne gâche rien, c'est dans la bande-annonce. Le fait que vous le plantiez là, ça le remet en cause dans tout. Voilà. Dans tout, et dans son boulot, dans son comportement, et même dans son racisme quotidien, puisqu'il y a un voisin qui arrive, il est noir, il a eu un problème avec avec sa fille, il n'aimait pas son gendre, non, il parle plus avec sa fille à cause du gendre.
Voilà.
Donc en fait, il y a une évolution chez lui qui est belle, qui est humaine, quoi.
Qui même me suivent, pour vous, c'est une histoire comme il en existe énormément, ou c'est une manière de voir la sexualité dans la vie à tout âge?
Moi, le sujet de la sexualité, c'est pas vraiment le centre du film, hein. C'est plutôt les sentiments humains. Mais c'est juste d'être bien, d'avoir envie d'être proche de l'autre, et de partager le lit. C'est quand même la moindre des choses. Quoi.
Et se dire que l'amour peut aussi renaître quand il s'est un peu endormi, qu'on peut relancer la flamme.
Oui, puis c'est l'amour éternel.
C'est ce que veut Daniel Auteuil, en tout cas. Il n'est pas dit qu'il y arrive.
Non, mais c'est une belle histoire d'amour, quand même, histoire, même si elle est à trois.
Oui, parce que comme...
Ils ont l'air de se débrouiller pas si mal avec cette histoire d'être trois.
Vaut mieux être à trois que
tout seul. C'est comme s'il y avait un pacte non dit.
Vaut mieux être trois qu'être seul.
Bah, tu te dis finalement
on peut le noter sur un coin de la table.
Je dis simplement que pour vivre l'amour, si t'es deux et t'es trois, c'est bien aussi. Enfin, moi je suis d'accord avec Catherine.
Hein. Mieux vaut être bien à trois que mal à deux.
Ça c'est encore un autre message.
Ou que mal tout seul.
Qui même me suive, en tout cas celui qui va se battre, c'est Daniel Auteuil. C'est-à-dire que lui il va tout faire pour vous conquérir à nouveau.
Et ben voilà. Ouais. Mais on va pas dire s'il m'a qui au bout du compte.
Conquise.
Non, on dit pas.
M'a conquise.
J'ai conquise. Parlé, là. Ouais,
c'est
ça.
C'est l'émotion, Catherine.
Pardon.
Pierre Albert, ce film qui même me suive, tout à l'heure j'ai dit sauf, qui même me suive, de José Acala qui sort mercredi prochain, le 20 mars, sera un succès, vous le dites.
Très cher Nangui. Oui, très cher Nangui. Pas besoin d'être Jérémy, le prophète, pas Crédville, jadis évoqué par Brassens, pour deviner effectivement le succès promis à ce film. D'ailleurs, avec cet admirable esprit de concision qui caractérise vos analyses aussi subtiles que synthétiques, vous venez de donner les raisons de ce prévisible triomphe, sans oublier de souligner les qualités d'interprétation de Catherine Frou. Coco Zavatine. Ceci dit, Nangui, je confesse que ce n'est pas sans réticence, pour ne pas dire sans répugnance, que j'ai regardé ce film. Dès le début, et là je ne vends rien à la mèche de cette histoire, vous vous dites divulgâcher, moi j'ai dit vendre la mèche. Dès le début, disais-je, on découvre que Simone, pourtant unie à Gilbert par les liens sacrés du mariage, trompe son époux avec Étienne, leur ami et voisin. À ce propos, je peux vous dire qu'entre ces deux retraités, c'est tous les jours la fête des voisins. Et croyez-moi, Simone et Étienne ne se contentent pas d'échanger de la quiche aux poireaux contre de la tarte aux moules. Bref, si encore Simone éprouvait quelques remords, quelques hontes à se livrer ainsi à l'adultère, à refaire Jules et Jim. Mais non, la nuit venue se mue en une véritable boule de vis. Elle s'abandonne à la concupiscence, à la luxure sans retenue et sans que sa conscience n'en soit effleurée un seul instant par la gravité de l'impureté et de ses funestes conséquences, tant sur sa santé que sur la famille. Piliers de notre société. Un grand papa, une grand maman, un grand papa. Alors bien sûr, à défaut de les excuser, il y a des raisons à ce relâchement des liens indissolubles du mariage. La routine, les mauvaises odeurs, le manque d'argent et d'hygiène. Et surtout, j'en suis sûr, il y a, porté par Gilbert, ces chemises abominablement laides qui n'ont rien à envier à celles de Daniel Morin.
Oui, ça peut l'esprit, oui, c'est vrai, l'esprit.
Et je comprends que ces liquettes aient donné à Simone envie de fuir très loin du foyer conjugal. Voilà pourquoi, chère Catherine Fro, ouais. Zavatine, alors que j'étais sur le point de pratiquer sur toi un exorcisme flash pour demander au démon de la luxure de quitter ton corps possédé, je me contenterai d'une absolution compréhensive, pleine et entière. Bref, je te pardonne. Oui, parce que je sais que tu aimes te confesser. On l'a dit tout à l'heure. Alors, juste une annonce avant de vous quitter. Pourquoi ? Ce soir, dans ma camionnette bâchée cuir clouté noir, garée à les débranleurs, au bois de boubou, j'organise une soirée qui même me suive. Et je ne cours pas vite. Venez nombreux.
Merci à vous.
France Inter. Lundi. La bande originale.
Voilà, ceux qui m'aiment iront au bois de boubou, quoi. On a compris.
Qui m'aiment aussi, mais je ne cours pas vite. Et je ne cours pas vite.
C'est la promesse.
Marina est passée de l'autre côté, ouais, c'est ça. Et je ne cours pas vite. Daniel Auteuil, Bernard Lecoq, Catherine Fro, ce trio de brillants comédiens, parce que c'est vrai que vous êtes amusés, ça se sent, ça se voit d'ailleurs, non, tous les trois.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Vous connaissiez, vous avez déjà joué les uns avec les autres?
Non. Non, non. Enfin, Daniel Auteuil, je l'ai connu. Moi, j'avais 18 ans, lui, peut-être 27, 28, dans un téléfilm. C'était une des premières choses que j'avais faites avec lui. Et je l'ai jamais revu depuis. Et Bernard Lecoq, non, j'avais jamais travaillé.
Donc, c'est une première pour tout le monde.
Ah, ouais. Ouais. Et non, on s'est vraiment amusé. Bon, en même temps, le travail, c'est toujours le travail, hein. Il y a quelque chose de sérieux qui, moi, me déplaît pas dans le travail. C'est pas parce qu'on rigole qu'on va faire du grand art, hein. Donc, on essaye de faire bien, quand même. Ça, on se gratte un peu la tête. Mais c'était gai.
Il y a quelque chose de sérieux qui me déplaît pas dans le travail. Expliquez-nous.
Ah ben ça, j'ai... Bah, même vous, regardez comment elle est bien votre émission. Tout est bien préparé, tout est à la fois structuré et à la fois il y a du fou dans la structure.
Oui, mais justement, il faut pas se rendre compte de la préparation, il faut l'impression que c'est normal, c'est naturel, que c'est fluide et que c'est normal.
C'est naturel, mais à la base...
Tu vas dire quand tu fous rien, toi, Nagui.
À la base, il y a une partition, voilà, un minimum.
Donc ça veut dire que vous aimez que l'on répète les scènes, qu'on les travaille, qu'elles soient dirigées?
Ouais, ça dépend. C'est une harmonie, c'est un truc d'ensemble, c'est une préparation personnelle, je suis un peu studieuse, on va dire.
Ouais.
Et puis c'est un peu ma nature.
Ouais, et pas laborieuse, studieuse, c'est pas pareil.
J'espère.
Et c'est un film aussi qui vous gâte, parce qu'il vous donne beaucoup de choses à jouer. Beaucoup de registres différents, je pense à la scène à la clinique, je pense à la scène où vous êtes plutôt dans la complicité amoureuse avec Lecoq, dans le désamour et l'annonce du désamour à Auteuil, en lui disant qu'il a une haleine de coopérative, qu'il est... Non mais c'est vrai, il y a quand même des mots très très forts du désamour qui ensuite ne dit que l'amour qui va suivre. Enfin, vous êtes aussi... c'est un rôle intéressant, j'imagine.
C'est un rôle à évolution aussi, c'est quelqu'un qui part un peu de... Quelque chose de gris vers quelque chose de coloré, quoi.
Ouais.
Là, le soleil, c'est ça. Elle a beau vivre au soleil, elle est...
Puis à la fin, avec sa marinière, évidemment, elle a plus du tout la même tête qu'au début, quoi.
Oui, elle rayonne.
Ouais.
Et puis la transformation de l'homme aussi, parce que Daniel Auteuil va totalement, son personnage en tout cas, va totalement évoluer grâce à elle. Et puis il va s'ouvrir aux autres, ce qui ne semblait pas être le cas.
Bernard Lecoq aussi, qui bénéficie d'une transformation capillaire qui était urgente. Qui était urgentissime.
Mais le personnage de Bernard Lecoq, il est drôle, c'est un cycliste amateur, merveilleux.
Ah
quoi,
oui, c'est formidable ça.
Il est
un vieux beau,
c'est ça, mais il a beaucoup d'humour. Ouais. Et il est touchant. Très...
Ouais. Daniel Auteuil, Bernard Lecoq et Catherine Fro, donc à l'affiche de Qui m'aime me suivre, le film signé José Alcala, ça sera mercredi prochain au cinéma. Voici Marina Rollman sur Internet.
Ah, ben
ça y est les amis, il est temps enfin de déposer sa candidature pour la mairie de Paris.
Ah,
vous saviez ça?
Toi aussi.
Alors évidemment, je compte me présenter.
Enfin.
Bah oui, bah je suis bien placée pour voir ce que ça vaut de bosser dans la fonction publique. Hein. Avec France Inter, ça fait 2 saisons que ma salle elle est complète. Imagine si je deviens maire, je remplis mes salles de spectacle jusqu'en 2040. Mais c'est vrai, vous imaginez DSK, il a même pas été président. Il est accusé d'agression sexuelle, de proxénétisme, de recel. Total, ça fait 8 ans qu'il donne des conférences, il est consultant pour plein de gouvernements, il est au top. Clairement, la politique française, que tu sois bon ou pas, ça te lance une carrière, c'est vraiment, c'est la nouvelle star pour les gens qui chantent mal. Mais donc, qui dit candidate à la mairie dit programme. Et je vais donc profiter de la tribune qui m'est donnée ici pour vous exposer les points principaux de mon programme. Okay. Alors on a parlé de déplacement un peu plus tôt avec Catherine Fraud. Alors moi, tout ce qui est transport, j'avais évoqué il y a quelques semaines un projet de toboggan dans la ville de Paris, je ne sais pas si vous vous rappelez.
Ouais.
Au final, je crois que ça ne va pas le faire, c'est peut-être un petit peu compliqué. En revanche, j'ai une nouvelle solution. Mm-hmm. Si vous habitez Paris et que vous voulez vous déplacer intramuros, c'est Anne Hidalgo qui vient vous chercher directement en bas de chez vous. Et je m'engage formellement à ce qu'elle vous emmène à destination en moins de 20 minutes par le moyen de transport de son choix. Alors la catapulte semble être le moyen le plus efficace pour les longues distances. En plus, il y a un côté médiéval, ludique, un peu Puy du Fou, qui n'est pas déplaisant de 7 à 77 ans.
Et écolo.
En plus, voilà, absolument. Ouais. Alors pour les petits trajets, on planche plutôt sur de très gros trampolines. Bon, ça reste à voir. Évidemment, vous ne pouvez pas noter la course. En revanche, elle vous offre de l'eau pour le trajet sous forme de bonbonne pour vous lester, évidemment. Histoire que vous ne partiez pas trop non plus. T'imagines, t'as rendez-vous à la Défense, mais t'es un peu léger. Paf, tu te retrouves à Pontoise. C'est chiant. Le temps gagné à l'aller, tu le perds dans les transports en retour. C'est pas ce qu'on veut. Ensuite, force de l'ordre et encadrement des manifestations.
Alors
je propose de remplacer les flashballs par des Morgenstern. Tout le monde voit ce que c'est?
Non.
L'étoile du matin. La masse d'armes, voilà. C'est le truc, tu sais, comme un nunchaku, mais au bout, c'est une boule avec des pics comme
des
ça.
Piquants.
Les boules
voilà.
Feu, ouais.
Oui, parce que je trouve qu'il faut arrêter avec les armes de gonzesse. Voilà. Moi, je suis aussi pour le rétablissement du port du home et des chevaux. Voilà. Mais alors, attention, c'est pas que pour les forces de l'ordre, c'est aussi pour les manifestants. Voilà. Tout le monde s'affronte à armes égales. Voilà.
Wow.
C'est comme une partie de polo, mais en plus marxiste, comme ça. Il y a une vraie lutte des classes qui a le mérite, en plus, d'être divertissante.
C'est vrai.
Parce que c'est vrai qu'avec les fumigènes aujourd'hui, on ne voit rien. C'est chiant. Le spectacle est nul. Il y a quelque chose de là, pour le coup, très wagnérien. Si on s'affronte à cheval, etc. On peut imaginer organiser les manifestations directement dans des arènes, en plexiglas, avec les riches qui peuvent regarder autour. C'est fun. Voilà. Et alors sur le modèle vraiment méritocratique, si tu es gilet jaune et que tu gagnes, c'est-à-dire que tu es le dernier debout dans l'arène, tu es directement promu vice-président d'une boîte du CAC 40 que ton père a montée. Et ensuite tu peux passer le restant de tes jours à dire des trucs genre écoute, moi je me suis fait tout seul, j'ai su prendre des risques, à un moment donné il faut le dire, il y a des gens qui veulent pas bosser, voilà, c'est comme ça, c'est la vérité. Alors ça c'était les mesures un peu grand spectacle, mesures plus légères maintenant, d'échéance de nationalité aux gens qui décident de leur plein gré de dire qu'ils habitent sur Paris.
Ah ouais.
Voilà.
Ouais.
Ou sur toute autre ville. Ah d'ailleurs. Tu habites sur Paris. Ah bah c'est triste. Hop, automatiquement maintenant tu es sur la Sibérie. Voilà. Au revoir, c'est terminé. Et ensuite recherche et développement. Alors j'investirai sur la mise au point d'un rayon hyper puissant, liquéfiant, c'est-à-dire que tu es solide, il te touche, hop, tu es une flaque, qu'on montrait ensuite sur des drones qui se baladeraient dans la ville et qui liquéfieraient les citoyens sans sommation préalable. Mais attention, pour un seul type de France, toute personne regardant du contenu audiovisuel dans des lieux publics sans écouteurs. Voilà.
Ah ouais.
tu veux qu'on regarde les ch'tis à Miami ensemble? Et ben voilà, tu es un spritz maintenant, c'est terminé. Alors vous votez Rollman? Vous avez raison, parce que sinon je vous liquéfie, donc vous avez raison de pas faire les malins. Merci.
Merci Marina Rollman. Votez Marina.
La bande originale. Lady. Sur France Inter.
Dans la bande originale du film qui même me suit avec Catherine Fraud, il y a donc Nino Ferrer. Il y a également Star Shooter.
Ça, vous avez rien du tout, t'as l'air avec des copines. Danser comme un fou, comme ça pendant toute la nuit. Je préparais.
I don't know.
Annie El-Khatib.
Where it came from. But I do know. You're not alone.
Mick Harvey. Ah, il y a une belle BO, hein.
Ah ouais.
Belle BO. Vous avez vu le film une fois le film fait, parce que évidemment quand on tourne un film déjà on n'entend pas la musique forcément qui va l'accompagner. Il y a forcément aussi des scènes qui sont coupées, montées différemment. On ne tourne jamais dans l'ordre dans lequel le film est raconté. Quel a été votre sentiment, vous, pour cette balade et cette histoire d'amour? Ou ces histoires d'amour.
Du point de vue de la musique,
non, ou quoi? Non, du point de vue du film, de la spectatrice.
Oui, mais je sais pas, déjà là, je trouve que c'est beau le coin géographique là. C'est le lac du Salagou. Le lac du Salagou, c'est derrière Sète.
D'accord.
Et je connaissais pas du tout.
C'est dans l'Hérault?
Dans l'Hérault. La terre est très rouge et très noire en même temps, c'est très contrasté et il y a du vert clair. Franchement, c'est beau. Pictural. Donc voilà, moi, ce que, voilà, ça me plaisait.
C'est beau parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que le cadre de vie peut être un cadre de vacances, un cadre idyllique. Or, ils sont dans une situation critique en termes d'argent, de revenus, de, ils sont pris à la gorge par leurs dettes, ils n'ont pas d'avenir professionnel, ils sont inquiets d'ailleurs de la manière dont le village va continuer de vivre. Et on a l'impression d'être au paradis.
C'est vrai. C'est un peu contradictoire en fait, mais ça, c'est, du coup ça donne quelque chose de vrai. Le village était tout petit, le garage était en fin de course, mais sur un espèce, pas un pilotis, mais presque en hauteur, et donc il y a quelque chose de ravissant dedans.
De dire pourquoi ne pas en faire une pizzeria. Et d'ailleurs, il essaye de vous aider un peu dans ce projet-là.
Bah voilà, mais ça met du temps.
il faut
mais
faire
ça finit par une pizzeria.
avec des lampions. D'ailleurs, il est dit dans le film que vous êtes lumineuse. Vous vous dites que c'est grâce aux lampions.
Oui.
Mais c'est vrai qu'il y a un côté solaire dans votre personnage.
Oui. Bah oui, parce qu'elle bouge, elle s'illumine. Elle va mieux.
Elle se révèle.
Elle se révèle.
Parce qu'elle le décide.
Et quand on va mieux, on n'est plus beau à regarder.
Et puis c'est bien, elle l'abandonne. Parce qu'elle l'abandonne, elle le laisse de son côté, il est obligé de se prendre en main. Et puis elle n'est pas obligée de le porter. Parce que c'est ça aussi, le début du film, c'est un couple où elle est le moteur.
Oui.
Elle lui dit quoi faire pour gérer l'argent, elle n'est pas d'accord avec lui. Donc c'est des engueulades, ce qui fait que plus personne ne s'aime et plus personne ne se respecte même individuellement finalement.
Voilà, mais c'est l'idée de quand on tombe, on se relève. Oui. Et chacun, à leur manière, sont dans cette dynamique-là. Et elle encore plus, au départ, c'est la fin de quelque chose, mais il y a une renaissance. Et elle va provoquer ça chez les deux autres, en fait.
Quelle musique écoute Catherine Fraud dans la vie, dans les années 70 ? Elle écoutait les Beatles.
Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly.
Cette chanson de McCartney ou des Beatles vous renvoie à quel moment de votre vie?
Ça me renvoie à mes 14 ans, 15 ans. Avec ma sœur, on les connaissait par cœur. On les chantait à tue-tête dans la voiture tout le temps. Ça me renvoie à ça.
Du bon anglais que l'on comprenait, qui était bien articulé, qu'on pouvait apprendre et comprendre. Ouais.
Exactement.
À propos de Yesterday, il n'y a pas un film qui va bientôt sortir?
On en parlera demain.
En tout cas, dans les milieux des années 70, Catherine, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous vous êtes choisie pour jouer la fille de Marina Vladi. Parce qu'on estimait à l'époque que vous lui ressembliez, c'est ça?
Oui, sauf les yeux. J'avais les joues un peu à la russe.
Donc ça, c'est un peu votre premier rôle, finalement, dans votre carrière. Et vous poursuivez, dans ces années-là, votre apprentissage. Vous allez à l'école de la rue Blanche. Et ensuite au conservatoire. Et vous y avez Marcel Bluval comme enseignant. Marcel Bluval, vous pouvez le représenter pour nos auditeurs.
Marcel Bluval, il a fait une chose marquante à la télévision, la grande époque de la télévision française. C'est son Don Juan avec Michel Piccoli et Claude Brasseur. Et c'est
qui est légendaire
dans le milieu de la télévision.
C'est merveilleux.
Et puis ça a été un professeur. Puis il a fait plein d'autres choses. Il a monté des opéras, des pièces de théâtre, plein de choses avec sa femme notamment, Daniel Lebrun. Et puis il a été un prof grandiose.
C'est quoi un prof
inoubliable,
Catherine?
Je sais pas. C'est quelqu'un qui vous marque. À tout jamais dans votre travail, quoi, voilà.
Vous pensez à lui quand vous...
Non, pas tout le temps quand même. Mais je sais, pour moi, c'est une grande référence. Je l'ai revu encore il y a pas longtemps. C'est un monsieur âgé maintenant, mais en pleine forme. Mm-hmm. Et j'ai déjeuné avec lui il y a pas longtemps. Et c'est quelqu'un de remarquable.
Qu'est-ce qu'il vous a transmis?
Je sais pas. Moi, je raconte souvent une petite histoire. C'est la ligne rouge. Faudrait que j'arrête de la raconter. J'ai peur de me redire.
Allez-y, moi je la connais pas.
Moi je la connais pas non plus.
C'est-à-dire que il nous mettait par terre un petit bandeau rouge, tout droit. Et il y avait ce qui à être quelque chose avant et être autre chose après. C'est-à-dire n'être rien avant, c'est-à-dire éventuellement soi-même. Et puis, dès que la jambe passait le fil rouge, tout à coup, quelque chose devait se passer. Voilà. Donc, et on travaillait là-dessus en reculant, en avançant, en attendant, en passant d'un coup d'un seul, des ruptures. Il nous a fait travailler là-dessus, c'était extra.
Est-ce que ça vous a donné envie, ou pensez, enseigner? Parce que vous vous êtes dit, j'ai envie, ouais, moi aussi, de...
Ouais, j'avoue. Si je travaillais plus, j'enseignerais. C'est vrai.
Moi, j'ai eu la chance d'assister à une masterclass que vous aviez faite, et c'est vrai que vous êtes dans le partage et la proximité avec les jeunes comédiennes et comédiens qui étaient autour de vous.
Ouais, j'aimerais.
Expliquer comment...
C'était quoi que vous aviez vu?
C'est une masterclass que nous avions faite avec
Avec vous?
Oui.
Mais oui, je me souviens très bien. Mais il y a un moment. Hein.
Mais oui, mais alors je peux m'en souvenir
quand
même.
Oui, mais c'était bien. Mais je me souviens très bien. Ah oui, je croyais que vous parliez d'autre chose.
Non, non, c'est Stéphane Fuenquinos qui avait réuni des jeunes acteurs et des jeunes actrices. Oui. Et vous aviez donné. Et qui rejouait des scènes devant vous. Et après, vous commentiez, vous enseigniez.
Ouais, mais quand je dis il y a longtemps, ça veut dire, je sais pas si j'étais prête à l'époque.
Oui.
Je sais pas si j'étais trop prête.
Si.
Vous m'aviez bien senti d'être ce point de vue.
Ah bon. Très efficace.
Bah, mais là maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien.
Bah, vous allez
j'ai pas le temps pour l'instant, mais je vais peut-être le faire. J'ai le temps encore.
Ah oui. En 1994, vous écoutiez Police. Rocks. Pour la chanson ou pour le clin d'œil à Cyrano de Bergerac?
De quoi?
Roxane.
Ah non, pour la chanson.
Elle est née comme ça. Sting a découvert une affiche de Cyrano et de Roxane quand il était dans un hôtel près de la gare du Nord à Paris. Et ça lui a inspiré le prénom de Roxane pour une histoire qui est évidemment différente de Cyrano.
Moi, donc, c'est la chanson. Moi, c'est Sting, je suis fan.
Il a un nouvel album qui arrive.
Ah
ouais. Vous aimez Sting?
Hein?
Vous aimez Sting?
Ah, mais j'aime Sting par-dessus tout.
Sa musique et le bonhomme aussi.
C'est
vrai?
Je le trouve extra. Je le trouve fantastique.
Il paraît qu'il peut faire l'amour pendant 7 heures.
Oh!
comment tu sais ça?
Là, c'est le personnage de Simone qui revient et qui dit ah, bah, tiens, il y a moyen de faire quelque chose.
Non, mais je l'aime comme artiste.
Oui,
oh là
bien
là.
Sûr, bien sûr. En tout cas,
qu'est-ce que tu fais pendant 6h55 qui reste?
Ça, c'est la question qu'on se pose avec toi, Daniel.
Tu n'as toujours pas de réponse.
Non, toujours pas. Et on peut se dire qu'en 94, au milieu des années 90, on vous retrouve dans le rôle de Yolande, Catherine. Un rôle très très fort qui
rôle marquant
un rôle marquant dans Un air de famille où tout d'un coup c'est un personnage dont tout le monde rit.
Oui.
Il faut lui trouver une forme d'humanité, elle est un peu naïve, elle est un peu bête parfois. Et il faut arriver à le porter, ce rôle.
Oui c'était assez quelle histoire, quelle aventure, mon Dieu, quand j'y repense, parce que j'étais pas sûre que ça fasse rire du tout. J'étais assez inquiète avant de commencer, et je me demandais si j'étais Yolande ou pas. Enfin, je me suis vraiment posé des questions à cette période-là.
Mais vous n'avez pas posé la question de
j'étais inquiète sur moi-même.
À votre détriment?
Si, mais je me posais pas... Je me demandais ce qui allait se passer. J'étais troublée à l'intérieur, c'était trop bizarre. Voilà, enfin, ça a été une expérience...
C'est bizarre, rien que d'en reparler, là, vous avez l'air oppressée.
Non, quand même pas. non, mais je me souviens que c'était difficile. Mais j'ai adoré, quoi. Je ne m'attendais pas à cette forte réaction du public.
Ouais,
je ne m'attendais pas.
C'est un peu un tube, quoi, tout d'un coup, ce personnage.
Oui, c'est mon tube.
Ouais.
45 tours, là.
Ouais.
On est en 2000... Non, pardon, on est en 1999. Vous écoutez Alain Bachung.
La nuit, je mens. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens. Je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho.
Formidable chanteur, comédien aussi, très bon acteur, Alain Bachung, faut pas l'oublier. La nuit, je mens. Quelles images avez-vous avec cette chanson?
Je sais pas. C'est la voix de Bachung, c'est comme un poème. J'ai des images de poésie, de tableaux, je sais pas. C'est très... Il y a chez Bachung ça. Il mélange tous les arts pour moi. Sa musique, sa voix, son visage, je sais pas. Il y a un très beau mouvement dans ce qu'il fait.
À quel moment de votre vie la musique vous accompagne? C'est quand vous êtes seul, quand vous êtes en train de vous concentrer pour un rôle? Est-ce que vous faites une espèce de playlist pour rentrer dans la peau d'un personnage aussi, ou pour vous balader dans Paris?
Non, pas tant que ça en fait. J'en écoute beaucoup moins qu'avant. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais énormément de musique. Je connaissais énormément de groupes, énormément de musique. Maintenant, beaucoup moins. Alors c'est de temps en temps, toute seule, que je me mets dans la musique, mais moins qu'avant. Toute seule, en fait, en général.
Mais pas pour préparer un personnage?
Non.
Pas pour vous mettre dans le conditionnement ou dans la condition d'un personnage?
Non. Enfin, disons que quand je prépare un personnage, tout prend sens. Hein, je pense, et souvent les acteurs disent ça. Tout prend sens en relation avec ce personnage. Dans la rue, ce qu'on voit, à une terrasse de café, un tableau, une fourchette, la musique, tout prend sens.
On devient voleur un peu de tout.
Ouais, voilà, c'est ça, on attrape pas. Ouais.
Voilà. Donc depuis, là on est en 99, je reviens un tout petit peu sur 94 où en effet on a parlé de Yolande, qui vous vaut quand même un César de la meilleure actrice dans un second rôle dans Un air de famille, qui vous vaut aussi tout d'un coup une exposition médiatique beaucoup plus importante. On arrive en 99 et là, vous obtenez dans le film de Pascal Thomas un rôle très important dans La Dilettante, qui est aussi une autre façon de concrétiser tout d'un coup l'exposition médiatique dont vous avez bénéficié avec Yolande.
Voilà, mais je l'ai un peu voulu. Ouais. C'est-à-dire que derrière Yolande, on m'a proposé plein de rôles qui étaient des sous-Yolande.
Ouais.
Donc, et là, je suis bien contente d'avoir eu la lucidité de ne pas faire, parce que comme ça, les acteurs, des fois, ils disparaissent en deux coups de cuir à peau, parce que il y a un peu une redite, une autosatisfaction, et c'est ennuyeux. Et je me souviens avoir vraiment attendu en me disant « bon, bah, je ferai autre chose, je ferai au théâtre ou ceci, cela ».
C'est votre instinct qui vous a dit de ne pas y aller?
Oui, oui, oui. Et quand j'ai vu arriver La Dilettante, je me suis dit « mais pourquoi on me propose un truc pareil ?» Ça m'a semblé dingue.
Et votre agent s'opposait au fait que vous acceptiez
l'agent de l'époque.
L'agent de l'époque, et j'ai changé d'agent.
Non, mais c'est vrai ça.
C'est vrai. Pourquoi il m'a dit non, c'est un personnage trop, qu'est-ce qu'il m'a dit? Dérangeant. Ça va pas plaire au public. Catherine fait pas ça. Nanana. Et je me souviens que ça m'avait.
Vous avez bien fait changer, oui.
Ouais. Mais oui, c'est un personnage paradoxal. C'est pas un personnage poli. C'est un personnage, effectivement, un peu.
Non, mais nous, on se rend pas compte on en a parlé déjà dans cette émission, de l'importance des agents. Mais c'est vrai que lorsqu'une actrice ou un acteur choisit un rôle, il se soucie, ou son agent pour lui, se soucie du regard des autres, de l'interprétation qu'on en ferait, du risque dans la carrière.
Disons que moi j'ai un bon dialogue avec le mien. Faut avoir un
celui
bon
d'aujourd'hui, vous voulez dire.
Celui que j'ai depuis cette époque de la Dilettante, donc il y a 20 ans. Et depuis ce moment-là, pour moi c'est un très bon agent, et je crois qu'on s'aime, on est complices, on s'aime dans le fait de partager le travail. Donc son sentiment, son analyse m'intéresse.
Qui décide des deux réellement?
Ah ben c'est moi, quand même. Au bout du compte.
Au final, ouais.
Mais il m'indique des choses. Il m'indique des choses très importantes.
Ou alors un bon agent, c'est peut-être celui qui décide et qui vous fait croire que c'est vous qui décidez.
Vous avez raison, peut-être. Non, mais il est formidable. C'est une sorte d'ami. On est complices quand même là-dessus.
Et il s'appelle?
Hein?
Et il s'appelle?
Jean-François Gabart.
Autant le dire.
Il est merveilleux. Ouais,
très bien. En 2016. Pourquoi Stromae?
Pourquoi Stromae? Parce que c'est ma fille qui me l'a fait découvrir.
Suzanne?
Oui, et ça a été un choc. Ça a été un choc.
Bah, vous voyez que vous écoutez de la musique maintenant et d'une autre manière, puisque vous l'entendez par les oreilles de votre fille.
Voilà, exactement.
Et est-ce que cette année 2016 est un choc aussi? Un César, un Molière.
Encore un César?
Ouais, même année. Donc Marguerite, meilleure actrice, et au théâtre pour ce Molière, comédienne dans un théâtre privé pour Fleur de Cactus.
Oui.
Deux personnages hauts en couleur.
Ouais.
Même année, récompensée.
C'était énorme, c'était une année pour moi inoubliable, à tel point que j'ai pas travaillé pendant un an et demi volontairement. En fait, j'ai été crevée. J'étais complètement crevée. Je savais plus quoi faire, j'avais plus envie de rien. Et je me suis dit, Catherine, tu vas t'arrêter là un petit peu. Et voilà, j'ai repris.
Plus envie de rien, ça veut dire quoi, cette robe?
J'avais été trop gâtée. J'avais été trop gâtée, c'était trop beau. Donc après, je me suis occupée de mes affaires plus personnelles.
Est-ce que vous êtes quand même passé à côté de projets que vous auriez aimé faire? Parce que il y a des projets qui n'attendent pas. Vous dites, je suis crevée, je m'arrête pendant.
Oui, bah, j'aurais pu. À un moment, il était question que je fasse le Bon Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? Et puis tout ça. Mais j'ai. Oui, je suis passée à côté. J'ai fait. Il y avait plein de choses que j'ai pas faites, mais que je regrette pas. Que je regrette pas du tout.
En tout cas, vous avez fait Qui m'aime me suit, vous regrettez pas non plus, ça s'appelle ça s'appelle comme ça, et c'est José Alcala qui le réalise, Daniel Auteuil, Bernard Lecoq à vos côtés. On vous a déjà annoncé, Isabelle Duvernois, mais on vous a pas salué encore, soyez la bienvenue à ce micro.
Merci beaucoup.
Psychologue, psychothérapeute, sexologue, spécialiste entre autres des problématiques conjugales. Tout à l'heure on disait, vaut mieux être trois que seul ou mal accompagné.
Trois heureux, hein. Mieux vaut être heureux, peut-être, voilà. Tout simplement.
Oui. Non, mais après, peu importe à combien on est, c'est ça. Ouais.
Ça t'arrange, hein.
Bah ouais, mais écoute, c'est une spécialiste.
Et une. ne pas choisir, c'est une force ou une faiblesse quand on ne sait pas si on aime son mari, son amant et qu'on joue un peu un double jeu?
On est bien obligé à un moment donné de choisir.
On est obligé de choisir?
Alors. Ne pas choisir, c'est encore choisir, a dit Sartre. Donc finalement, tout est choix. La réalité nous rappelle à l'ordre et nous contraint à se rendre compte qu'on doit sortir de cette illusion de toute puissance dans laquelle on est enfant, mais qui ne tient pas à l'âge adulte. Donc
quoi, d'être à plusieurs ?
Pardon ?
Être à plusieurs, ça ne tient pas à l'âge adulte ?
Non, le fait de ne pas pouvoir choisir. Ah. On est forcément contraint de devoir faire des choix à un moment donné. Donc vous parliez de, est-ce que c'est une force ou une faiblesse? Bah, c'est une difficulté.
Le mari, la femme et l'amant, on a l'impression que c'est un schéma.
D'accord.
Donc extrêmement classique. Ouais, c'est ça. Ouais.
Bah oui, c'est très classique puisque bon, l'adultère existe depuis la nuit des temps, depuis que la fidélité est valorisée par l'Église et que elle est réprimée. Mais bon, malgré tout, bah ça prouve bien que finalement il y a quelque chose d'un peu irrépressible dans le fait de vouloir tromper son compagnon. Alors c'est René Girard dans les années 60 qui expliquait qu'en fait le désir il n'est pas binaire mais il est triangulaire et que finalement on désire ce qu'on convoite. Et c'est pour ça qu'il est utile qu'il y ait une tierce personne pour finalement continuer à désirer. Et que finalement dans le triangle comme ça amoureux on peut trouver un certain équilibre dans le désir parce que le désir erre sinon et est souvent fluctuant dans une relation.
Mais vous vous rendez compte que c'est un pouce au crime que vous venez de...
Un crime, c'est... Tu tues personne, a priori.
Ouais, okay. Tu fais beaucoup de mal. Retiens-toi, ma fille, retiens-toi.
C'est l'expression, pouce au crime.
Moi, je ne juge absolument pas. Hein. Je constate une réalité, simplement.
Vous constatez que pour que le désir continue d'exister, il faut qu'il y ait une tierce personne.
Il ne faut rien. Simplement, ça peut le favoriser, effectivement. C'est d'ailleurs l'objet de certains films, comme par exemple Vicky Cristina Barcelona, qui traite exactement de ça.
Les chansons d'amour.
Bon, mais en même temps, c'est pas si simple aussi, hein.
Le ménage à trois, est-ce que c'est une réalité? Oui, c'est un fantasme?
Alors, ça existe, mais le fantasme.
À quelle adresse? À quelle heure?
Comment?
Ça existe, de même que le polyamour. On en entend pas mal parler. Mais ce qui est un fantasme, c'est de croire que c'est un modèle dominant. Parce que, quand même, le modèle dominant reste largement. Le modèle
le couple adultère.
Du couple pas forcément quand même, parce que j'ai pas les chiffres, mais bon, tous les couples sont adultères. Pardon ?
La monogamie, c'est ça le...
Oui, c'est ça. Oh, ouais. Ouais. Et ça reste aussi le fantasme, donc le bonheur, l'idéal de bonheur, ça reste celui en couple.
Un couple exclusif. Qui s'aime. Voilà, un couple qui s'aime.
Mais ce qui a changé par contre, et finalement je trouve que c'est ce que raconte aussi ce film, alors je vais essayer de le dire sans trop en dire et divulguer trop l'histoire, mais je trouve que c'est ce que vous avez dit Catherine, je trouve que ça parle surtout une ode à la liberté de cette femme et de l'émancipation de cette femme, plus que finalement une réflexion sur une triangulation ou pas, parce qu'il y a des moments, je dis juste ça, à un moment donné, il n'est pas forcément question d'être avec l'un ou avec l'autre, mais peut-être éventuellement d'être surtout avec elle-même.
C'est dans la bande annonce. Ah oui, d'être surtout avec elle-même. Dans la bande annonce, il y a simplement le fait qu'elle dise on n'est pas bien là tous les trois ensemble.
C'est vrai.
Donc on ne gâche rien en posant cette question-là, mais c'est vrai que c'est une question qu'elle se pose finalement entre devoir choisir entre l'un ou l'autre, penser d'abord à son bonheur, à elle et à son équilibre personnel.
Oui, parce que c'est ça la vraie évolution dans le couple aujourd'hui.
Est-ce que ça veut donc dire que dans le ménage à trois, 3, il y a quand même quelqu'un qui est plus égocentrique que les autres, parce qu'on ne sait pas si, si les 3 sont heureux avec cette mécanique-là. On sait qu'elle, elle est heureuse, c'est son choix.
Bah, disons
ou elle
que,
le saurait, en tout cas, si elle y arrive.
Disons que ce serait un leurre de croire qu'on peut complètement s'assujettir de la jalousie, parce que elle est directement héritée du principe d'attachement qui se développe chez tout être humain dans la prime enfance, dans le lien
déjà
à la figure d'attachement.
Déjà vis-à-vis des frères et des sœurs et au sein de la famille. Même
oui, au sein de la famille,
d'amour.
Mais déjà en premier
la
lieu.
La jalousie existe déjà
la jalousie,
avant
oui,
l'amour.
Parce que elle découle directement de cette notion d'attachement qui est fondamentale, qui est vitale pour tout être humain, puisque c'est grâce à ça qu'un petit enfant peut se développer et accepter d'être du coup pris en charge par cette figure d'attachement, la plupart du temps la mère. Et du coup, il va s'attacher à sa mère. Et un attachement sécure, ça va tout simplement consister en se réjouir de la présence de cette personne et être triste de son absence. Voilà. Donc ça en découle la jalousie.
Question que voulait vous poser Daniel Morin, mais il n'a pas le courage. Est-ce que le ménage à trois fonctionne également le mari, la femme et la maîtresse ?
Sans doute. En tout cas, j'ai pu entendre parler de
quelle adresse, quel endroit, où.
Mais ce que je voulais juste dire par rapport à ça, c'est que
donc comme je disais, problèmes en fait.
Bah, tu vas consulter, regarde, consulte.
Je prendrai rendez-vous.
Je vous donnerai ma carte.
Non, voilà. Mais enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est que deux femmes, un homme, ou deux hommes, une femme, peu importe.
Il y a plein de configurations qui existent. Tout est possible en fin de compte. Hein. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que plus que finalement ça, ce qui est la vraie évolution. C'est la recherche de bonheur, de quelque manière que ce soit à trois, à plus que trois ou à deux. C'est plus la recherche d'une conciliation. Aujourd'hui, c'est en ça que je trouve que le film nous montre bien, finalement, de concilier bonheur relationnel avec épanouissement personnel. C'est plus ça la vraie évolution aujourd'hui dans la recherche des gens et dans ce qu'ils vont mettre en place pour trouver cet équilibre-là.
Notamment à un moment de la vie où on peut avoir le sentiment que tout est joué, c'est fait, c'est décidé, on a construit un couple, on a eu un enfant, des petits-enfants, et on est là depuis tellement d'années, on va rien changer, on va rien chambouler.
On reste par dépit.
Et
quoi.
Pourtant, ouais, oui. Ou par habitude.
Bah, et pourtant, si, on peut encore se dire l'espérance de vie a augmenté, on peut encore s'imaginer qu'on a du temps devant soi pour être heureux, si c'est plus le cas. Si on se sent mal dans son couple pour des raisons vraiment profondes...
Bah, dis pourquoi, Nagui, vas-y, profite-en.
Ça va swinguer alors, dans les EHPAD.
Catherine Fraud disait tout à l'heure que c'était d'anciens babacool, d'anciens hippies, d'anciens 68ards. Mais apparemment, dans ce que vous expliquez, ce n'est pas qu'une question de génération.
Non, c'est pas qu'une question de génération. Ça existe dans des générations plus jeunes, mais ça peut s'envisager aussi dans cette génération-là, sous l'impulsion justement de ce qui se passe chez des générations plus jeunes. Peut-être aussi également parce qu'ils ont vécu mes 68, comme vous l'expliquez, mais surtout aussi parce qu'il y a pour Simone, c'est vraiment vital. Elle doit s'émanciper effectivement de ce couple qui lui fait du mal. Vous parliez d'un mari aigri, c'est vraiment qui en ressort, quoi. C'est vital pour elle, où elle s'éteint. Enfin, voilà, elle chuchote au téléphone.
Oui, puis à un moment, le cœur du film parle aussi de ça. C'est-à-dire, il y a une déstructuration de la famille à cause de l'aigreur du père. Il y a aussi ça qui est abordé. Ça, il faut qu'ils sortent de ça, il faut qu'ils arrivent à en sortir.
Ce qui est formidable, c'est qu'on a parlé de tout, sauf du mensonge, sur lequel quand même tout est construit. Parce que ceux qui ont une double vie, ceux qui ont un double foyer, homme, femme, peu importe, mentent.
Bah, justement, c'est en ça que le ménage à trois ou le polyamour sont d'autres réponses sans mensonge, puisque ce sont des situations,
ce sont des
situations assumées entre adultes. Disons consentant. Bon, après, il peut y en avoir un qui est plus ou moins consentant, mais
qui le tenait
la situation, voilà. C'est ça. Et c'est, je crois que ça a été une réponse pour certains à justement ce qui est considéré comme une hypocrisie de la fidélité adultère, quoi, slash adultère. Donc, bon.
Merci beaucoup, Isabelle Duvernois, d'être venue nous éclairer. N'oubliez pas de laisser votre portable à Daniel Morin. Tanguy Pastureau.
Bonjour
Tanguy. Hollande et son entourage reviennent.
Oui, ils se mettent en mouvement. Si lent à y aller contre 2012 et 2017, on a le temps de les voir venir. Hollande serait candidat, selon la presse, au municipal à Tulle. Gaspard Ganzer, un ancien humoriste, puisqu'il s'est chargé de la com de Hollande, veut la mairie de Paris. Et Ségolène Royal, cette semaine, se dévoile dans Télé Loisirs. La Hollandie, acte 2.
Ça sera après les infos. Stop. évidemment original. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Mila Cadoret, Marina Rollman, Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Bonjour Marina.
Albert Aldou.
Bonjour.
Et notre invité Catherine Faure. Alors, on a beaucoup parlé d'adultère aussi pendant les informations. Avec Catherine Faure, sur Qui m'aime me suive, la grosse différence avec ce qui peut se passer dans certains couples, c'est-à-dire quand on trompe, c'est que là, la vérité est dite. Et elle est...
Elle est probablement envoyée... assumée depuis longtemps.
Au point, oui, qu'on se demande si Daniel Auteuil n'est pas un peu au courant quand même.
Moi, je pense.
Ouais, il se doute, il dit rien, mais enfin, il laisse faire.
Il y a un statu quo.
À un moment, il est devant la fenêtre et il veut pas voir ce qui va se passer.
Voilà. Il veut pas voir. Il y a un statu quo.
Parce que la fenêtre d'en face, justement, c'est celle de Bernard Lecoq. C'est
pratique.
C'est là où.
Non, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi?
T'as quoi, c'est pratique.
Elle n'a plus qu'à traverser.
Elle est en train de préparer son week-end en direct sur Internet. C'est quand même infernal, cette histoire.
Je travaille ce week-end.
Ah, t'appelles ça du boulot, attends, tu m'enneilles.
Ah, bah ouais, attends, tu veux pas faire ça gratos.
Faut avoir une coup de chien, fais-moi un prix maintenant.
Qui m'aime me suive, ça pourrait être aussi ce fameux titre. Si tu me quittes, je viens avec toi. Non, si tu me quittes, je viens avec toi, parce que c'est un peu ça aussi l'idée. Elle s'en va et Daniel Auteuil va tout faire pour.
Il y a une idée de liberté là-dedans. Il y a une idée de fuite, de liberté. Mais l'amour est là. Ils sont inséparables quand même. Je sais pas, j'ai l'impression quoi. Et puis depuis toujours, à un moment du film, on voit des photos d'eux quand ils sont petits. Ils sont jeunots quoi.
Tout repose sur ses épaules à elle. C'est elle qui décide.
C'est elle qui prend la décision de sortir, de partir, de revenir.
Et on parlait de tomber tout à l'heure. C'est juste, elle se rend compte qu'elle risque de tomber et elle ne veut pas. Et c'est à ce moment-là qu'elle
décide. Et tomber au sens propre aussi. Une question d'une chute aussi physique.
Oui.
Qui m'aime me suive. Le film est signé José Alcala. Ça sera mercredi au cinéma. Voici Tanguy Pastureau. Là, devant toi.
Oh là là, mais il fait peur des fois.
Tanguy, vous nous faites revenir en 2012.
Oui, c'était il y a 7 ans, c'est peu 7 ans. On a le temps de lire 4 livres. 4712 si l'on est Leïla Kadour-Bodadi, et encore avec un seul œil, parce qu'avec l'autre, elle regarde la grande librairie de France 5. 7 ans, ça permet de faire l'amour 11 fois, comme me le confie récemment Daniel Morin.
C'est vrai.
Il a une vie intellectuelle si dense. 2 chroniques par jour, une émission le week-end. Dans les usines aux Philippines, ils ont un petit hôtel à sa gloire. Eh bien, tu l'es coupé de son corps. On ne peut pas à la fois dire des choses pertinentes et avoir une vie sexuelle intense, ce qui permet d'affirmer que Luc Ferry doit être un vrai étalon. Il y a 7 ans donc, un petit bonhomme doux et affable prenait les rênes de la France. Il ne s'agit pas de Pac-Man, mais de François Hollande, même si pour les décrire, on utilise les mêmes termes. Le quinquennat Hollande, ça a été 5 ans de pause dans l'hystérie d'un monde en mouvement. Un instant que chacun, enfin, a eu pour soi. On mettait les infos, Laurent Delahousse lançait un magnéto sur Jean-Marc Ayrault. Parfois, son micro n'était pas coupé, puisque les techniciens de France Télé ont deux mains gauches, comme vous le dites souvent, Nagui. On entendait de là où s'écrier « Purée Robert, mets l'image à la bonne vitesse !» Et le Robert en question, le gauche, lui répondre « C'est la bonne vitesse !» Le problème, c'est pas nous, c'est Jean-Marc Ayrault. L'image ensuite revenait sur de là où s'endormit sur sa table, un filet de bave ornant son menton si volontaire, et on se disait « C'est pas vrai, même quand il pionce la bouche ouverte, il a le swag !» Avec l'envie d'introduire dans cette bouche l'ensemble de nos organes, plus ceux d'une vieille tante n'ayant pas vu le loup depuis 79. Alors depuis, Hollande n'est plus, il a été remplacé par un petit quick qui en 2 ans à s'agiter nous a épuisé, Macron. Mais espoir fou, fête totale, sarabande, comme disent les transgenres un peu excités. Hollande s'apprête à revenir. Pas au FMI, ni à l'ONU, encore moins à la Banque mondiale. Non, il aurait trouvé un défi à la hauteur de ses ambitions, la mairie de Tulle. Le cœur du monde libre selon lui, l'anus de la France selon les autres. La rumeur bruisse dans les rues de Tulle, couvrant le bruit des pigeons qui se lancent contre le clocher de l'église afin de s'offrir une mort qui les sauvera de l'ennui. Depuis que le site web du magazine Challenge, le journal des winners qui kiffent Wall Street et la coke, a annoncé mardi que Hollande aurait décidé d'être candidat en 2020. Il a déjà été maire de Tulle de 2001 à 2008. Donc il connaît bien le coin, il a fait la sieste devant chaque maison. Seulement le maire actuel de la ville, Bernard Combes, interrogé par le quotidien La Montagne, le journal dont on sert sur les marchés pour emballer la viande de marmotte, déclare « Je ne comprends pas, François ne m'a jamais dit qu'il était candidat. Il est surpris, tel César quand il a vu que c'est son fils qui allait le planter et qu'il a hurlé « Mais arrête, c'est trop con, on pourrait discuter !» La montagne tente alors de joindre Hollande. Il ne répond pas. Il y a son répondeur qui dit bonjour, chef Fanfan. Laissez un message que je consulterai au moment où je l'ai choisi, selon le cap que je me serais fixé. Ouais, bah fallait prendre l'orangère, ça.
Bravo, hein.
Bon, bref.
C'est beaucoup mieux.
C'est donc pas mieux, Snaggy.
Beaucoup mieux.
Mais alors, dans ce cas, à part le talent de votre imitation, pourquoi parlez-vous de retour?
Eh bien, Nagui, parce que tout son entourage revient. Ségolène Royal, d'abord, qui sort une interview dans Télé Loisirs. C'est une longue chute vers les oubliettes de l'histoire. Il y a un an, elle faisait l'Obs. Là, elle est dans Télé Loisirs, entre un article sur Félindra de Fort Boyard, qui explique qu'entre le 30 août et le 1er juillet, elle est au RSA. Et un soir où elle avait vraiment faim, elle a mangé un de ses tigres.
Oh,
et la recette de la tarte quetch. Donc, d'ici 6 mois, elle est dans le journal de Mickey, à cheval sur Pluto, avec les oreilles de Minnie. Alors, dans l'interview, elle parle de l'infidélité de Hollande. Depuis 2007, dit-elle, elle était au courant. C'est-à-dire qu'elle devait gérer une campagne présidentielle, un mari aussi chaud que Francky Vincent sous bois bandé, et tout le PS qui lui savonnait la planche. Comme en prison, s'il y avait une planche. Mais il n'y en a pas, c'est pour ça qu'ils se mettent le savon dans le rectum. Ah ben, les castors qui disposent de réserves de bois ne sont pas là à se tripoter. Dernier retour, enfin, celui de Gaspard Ganzer, l'ancien conseiller en communication de François Hollande. Il s'agissait donc d'un emploi fictif, et qui, à 40 ans, est bien décidé à décrocher son premier job. Il est candidat à la mairie de Paris. Alors, dans la matinale d'Inter hier, il a dit que Paris était, je cite, « dégueulasse », alors que c'est faux. Hein, le parvis de l'hôtel de ville, notamment, est nettoyé toutes les 16 minutes à la brosse à dents par les équipes municipales qui, quand Anne Hidalgo se montre à la fenêtre, ont ordre de reconstituer les chorégraphies du film La La Land avec l'air extatique. Alors, Ganzer a émis aussi la possibilité, tenez-vous bien, de détruire le périphérique pour mettre à la place des logements. Et là, je dis non. Car il faut savoir que Nagui, notre loulou, notre enfant chéri, quitte Radio France à 12h30 et 1 seconde pour grimper dans son pouce-pouce. Il crie alors au jeune garçon devant « Vas-y mon bon pédale, je dois être à la Plaine Saint-Denis à 12h32 pour tourner 14 jeux » et emprunte le périph. Si le périph n'existe plus, il mettra 2h30 à y aller et France 2, exaspéré, rappellera Julien Lepers en lui disant « Toi au moins t'étais naturellement sous stéroïdes, tu peux parcourir 80 bornes à pattes en 7 minutes, tu prends, n'oubliez pas les paroles. » Ce à quoi Julien Lepers répondra « Ouais avant de canaliser son énergie en faisant 1400 pompes. Voilà, alors en attendant, Hollande et sa clique reviennent, c'est formidable, c'est reparti pour le week-end permanent.
Bravo.
C'est Eric Masso.
Moi, je vote Marina Rollman à la mairie, hein, directement.
Merci, je maintiens le périphérique pour toi.
Et je vote Tanguy le 17 mai à Saint-Thibault-les-Vignes, dans le 77.
Tanguy Pastureau, imitateur et bruiteur, maintenant.
Incroyable, ouais. François Hollande.
C'est pas une imitation de François Hollande, vous avez fait
C'est
le Perse. Qui même me suivent, Daniel Auteuil, Bernard Lecoq, Catherine Fraud, pour la première fois, les trois réunis devant la caméra de José Alcala. Est-ce que vous avez servi de trait d'union pour convaincre les uns et les autres dans ce projet, puisque vous l'avez initié avec José Alcala?
J'ai pas vraiment initié, hein. C'est vraiment le projet de ce metteur en scène de José Alcala.
Il a écrit pour vous.
Oui. Et puis à un moment donné, on savait que Daniel Auteuil était d'accord, avait très envie de le faire, mais à un moment donné, pour le deuxième homme, j'ai soufflé le nom de Bernard Lecoq.
Parce que vous aviez envie d'avoir une scène avec lui?
Mais oui, parce que je le trouve extra. Je trouve qu'on le voit pas tant que ça au cinéma. Je trouve qu'il sort d'une aventure télévisuelle qui s'est terminée parce que le réalisateur est décédé. Une famille formidable. Et je le trouve grandiose. Je trouve qu'il a beaucoup de talent, beaucoup de charme et il est un peu unique. Donc voilà.
Et vous seriez pas un peu amoureuse de Bernard Lecoq?
Mais non, pas du tout. Ah là là.
C'est gênant ce que tu viens de faire, Daniel.
Non,
on peut être sympa sans amoureuse.
Non, je trouve que
la réponse est oui, mais elle peut pas le dire. Écoute.
On peut être sympa.
Son mari est pas encore au courant. C'est-à-dire qu'il faut que le trouble s'installe. Et là, c'est le trouble qui s'installe. C'est malin. Qui même me suivent. Il y a une morale dans cette histoire pour vous?
Non.
La morale, c'est que je sais pas. Moi, je dirais que c'est plus facile dans la fiction que dans la vraie vie, tout ça. Moi, je dirais ça. Mais qu'il y a tellement de fiction sur ce sujet qui est éternel. Parce que c'est dans nos fantasmes.
L'une des leçons, on l'a dit tout à l'heure, c'est que c'est une femme libre qui va, elle, décider. C'est elle qui va imposer ses règles.
Voilà. C'est beau, ça aurait pu être deux, ça aurait pu être deux femmes et un homme. Mm-hmm. C'est beau déjà d'avoir choisi. Je trouve que aujourd'hui, il y a quand même quelque chose sur les pas mal de réflexions sur les femmes et tout ça.
Ça marchait pas du tout. Ça marchait pas du tout de deux femmes et un homme dans cette histoire.
Ben non, je trouve, ça marchait pas. Il faut que ça soit cette femme qui prenne en avant, qui prenne les choses en main. Mm-hmm. Il y a quelque chose de oui.
Et ils sont tellement amoureux d'elle qu'ils sont prêts à tout accepter.
Bah, faut croire.
Ça a l'air de vous étonner.
Ils peuvent pas se séparer, ils peuvent pas, ils sont reliés.
En tout cas, on voit bien Daniel Morin dans Qui même me suivre, bah, qu'il n'est pas toujours aisé de choisir en amour. C'est ce qu'on vient de dire. Finalement, ouais. Avoir une double vie, c'est quand on est capable d'aimer doublement, peut-être deux fois plus. Ça prouve tout simplement qu'il faut avoir un cœur gros, fait de générosité, de partage.
Non! Ça y est! Ah, c'est la fin! Ah, oh, je vois un tunnel, une lumière blanche, je vois des silhouettes amicales. Ah, oh, le maréchal Pétain, Staline, Landru, Charles Pasqua, Hervé Villard, tous mes amis d'enfance morts.
Il va
coucou. Pas mort. Ah, vous n'êtes pas au courant. Ah, oh, mais ça veut dire que c'est la fin, je suis en train de crever. Vous m'avez eu, monsieur Guy. Ah, attendez, je sens que mon cœur reprend. Leila, donne-moi ta chaussure droite que je la sniffe. Oh, ah la vache, j'ai failli y passer. Deux semaines sans vous, monsieur Guy, j'avais déjà perdu l'habitude de vos platitudes navrantes, teintées de nunucheries exaspérantes. Leila, reprends ta grolle et file-moi ta kalachnikov gonflable que je zigouille sur Rastaquer. Vos deux semaines de vacances, que vous avez consacrées à financer les campagnes de Maduro au Venezuela et de Bouteflika en Algérie, ne vous ont pas rendu plus vif. Non. Et que c'est dur de choisir, ni, et que d'avoir une double vie, c'est aimer doublement fois deux, gna. Et qu'il faut avoir un gros cœur, ni. Mais merde! In the name of God, par le saint slip de Rocco, fermez-la, mon Dieu! Kaya tu boca, motherfucker, la isla bonita! Alors, oui, c'est du sanskrit. Alors oui, je sais qu'au chapitre amour multiple, oui, vous en connaissez un rayon. Vous êtes vif comme un satyre dans le bois de Boubou, vous êtes sentimental comme un Strauss-Kahn chez Jacques et Michel, mais vous êtes con comme un frotteur dans un wagon vide. Alors, certes, je sais que votre femme vit de façon à épanouir sa double liaison avec vous et Michel Simès, mais vous n'allez pas me parler.
Ah, c'est Michel!
Oui, c'est Michel. Ah, de cœur, de sentiment et d'amour, ça n'existe pas. Seul le vice et l'appât des chairs moites et infectées sont à l'ordre du jour. Ouais. Et en la matière, croyez-moi, et surtout, faites comme moi. N'aimez pas. Je vous assure, c'est beaucoup plus simple et ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Désolé, mais une fois de plus, mon tout petit monsieur Guy, vous avez dit.
N'importe quoi!
Sous Inter, la bande originale avec Nagui.
Bon, évidemment, tout est faux dans ce qui vient d'être dit, sauf la question de ne pas aimer. C'est une question qu'elle peut aussi se poser. De ne pas choisir entre le mari et l'amant. Oui, ne pas aimer, simplement.
Ne pas prendre de risques, voilà. Ne rien faire, ne pas bouger, ne pas respirer.
C'est aussi une option.
Oui, mais dans la vie, il y a souvent ce genre de questions. On peut ne pas bouger du tout, comme ça on ne risque rien.
Ouais, mais on s'ennuie.
Mais on s'ennuie.
Et elle est plutôt votre personnage dans le qui même me suit. Vous la définiriez comme épicurienne, comme au contraire, elle a trop attendu, elle a trop mis le couvercle sur la tête et là, elle a envie de sortir, d'être au soleil.
Je pense qu'elle a mis le couvercle sur la tête, mais elle a pas vu le truc passer, elle a pas vu le temps passer. Elle a tout à coup, il y a puis le fait que son amant s'en aille,
ouais, c'est son départ.
Voilà, il y a une addition de choses et puis l'aigreur du mari. À un moment, trop, c'est trop. Et puis le problème familial. Il y a un petit garçon dans le film qui est merveilleux, qui a 12 ans, qui s'appelle d'ailleurs Solam Dejean, qui est très très bel acteur jeune. Et il y a l'histoire de la famille aussi. Ce petit garçon, il est métis. Le mari de Simone Gilbert ne supporte pas le père du petit. Enfin, il y a tout ça en toile de fond.
Alors, on va citer les autres comédiens. Vous avez raison. Il y a, aux côtés de vous trois, Solam Dejean la créole, pour avoir son nom complet. Vanessa Parikh, Duke Coma, India Air, Olivier Lousteau, Anne Benoît, qui est toujours formidable.
D'ailleurs, ouais. Oh, Anne, elle est géniale.
Formidable comédienne. Thomas, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Thomas Walsh. Enfin, parce que c'est vrai qu'il y a aussi toute une partie initiatique dans le rapport entre Daniel Auteuil et son petit-fils qu'il ne connaît pas, n'aime pas, ou en tout cas n'aimait pas son père, c'est donc le gendre de Daniel Auteuil, parce qu'une espèce de racisme quotidien,
il a rejeté son beau-fils, et donc il rejette le petit, donc il y a des dissensions dans la famille, ça va pas du tout. Il est temps de remettre tout ça, voilà, et le film raconte ça aussi.
Et c'est aussi aussi une belle histoire et un beau rapport entre Daniel Auteuil et ce petit garçon.
Ah oui, magnifique. C'est le cœur du film aussi. Ça.
Ils se choisissent tout d'un coup, ouais, pour de vrai.
Qui même me suivent, Catherine Fraud, Daniel Auteuil, Bernard Lecoq. Et dans les projets, vous venez de débuter Un voyage en hiver. C'est un nouveau film.
Oui, ça ne sera pas le titre, il va changer le titre.
D'accord. Mais quel est votre personnage? Ça n'a pas changé.
Je regarde mes ongles parce que j'ai des ongles tout noirs. J'arrive pas à enlever le noir sous mes ongles parce que c'est mon personnage que je viens de commencer il y a 3 jours. C'est une femme à la rue, en fait. Une pauvre clocharde dans un très beau... Ça va être magnifique. Voilà, d'un film de Klaus Drexel. Mais là, je peux pas encore bien en parler.
D'accord. Hein. Est-ce que vous pouvez parler du Lucas Bellevaux, des hommes que vous allez tourner?
Oui, tourner au mois de juin, et avec Depardieu et Daroussin.
Gérard Depardieu qui était là hier, et que vous allez donc retrouver, vous allez pouvoir échanger avec... à propos de Bertrand Blier, vous avez retrouvé dans Des Hommes. Alors là, quel est votre personnage? Quel est votre rôle?
En fait, ça se passe pendant... Qu'est-ce que la guerre d'Algérie a fait comme humainement? Qu'est-ce que sont devenus ceux qui ont participé à la guerre d'Algérie? C'est le rôle de Depardieu qui était jeune. Et moi, je fais sa petite sœur qui a suivi le devenir de ces garçons.
Et enfin, parce que vous n'arrêtez pas, en tout cas, c'est pas une année où vous dites...
Cette année, c'est reparti.
D'accord. La fine fleur, c'est un film de Pierre Pinault?
Oui. Ça va se faire au mois de septembre, à la rentrée. Voilà, c'est encore autre chose. C'est dur à raconter tout ça. C'est une dame qui fait des roses. Voilà, une rosière qui s'occupe, qui a une roseraie. Et voilà. Et il y a un monsieur qui a aussi une roseraie, mais beaucoup plus importante qu'elle, qui voudrait que ça ne marche plus. Donc c'est la lutte de cette dame. C'est un personnage cocasse, désuet. Franchement, je suis contente.
C'est dur d'en parler, mais vous le faites très bien.
Je sais pas tout raconter, quoi.
Mais comment vous choisissez vos personnages, justement, en fonction des caractères différents, pour ne pas qu'il y ait 2-3 fois les mêmes ressorts, les mêmes cordes sur lesquelles il faudrait tirer pour jouer?
Je pense plus trop à ça maintenant, parce que j'ai des propositions quand même très différentes. C'est vrai que je fais un peu des grands écarts dans les compositions, ou même si c'est moins composé, mais je fais des choses très différentes.
Pardon,
mais c'est les gens.
Si quelqu'un envoie à votre agent, a envoyé à votre agent le rôle d'une pépiniériste, est-ce que vous allez vous dire, j'ai déjà fait une rosière, je vais pas faire pépiniériste.
Mais non, Nagui, ça dépend comment c'est écrit quand même. D'accord. Ça dépend ce que ça raconte. Le métier, ça m'est égal, le métier. C'est même marrant pour moi, c'est un voyage à chaque fois de faire une sage-femme ou de faire une dame qui a une roseraie, où je vais devoir apprendre comment l'hybridation des roses, etc. C'est quand même amusant. Moi, ça me passionne dans mon métier.
Donc,
c'est pas ça que je vais choisir.
Alors, c'est l'écriture,
La qualité du projet. Si vous sentez que ça va être bien, l'idée c'est que ça soit réussi et que ça touche le public.
Alors il faut quoi? Il faut une histoire, des partenaires, un réalisateur?
Voilà, c'est un ensemble, ouais. Le réalisateur en premier. Et puis le personnage.
Mais on a compris que les partenaires, c'est vous qui les choisissez en fonction de votre humeur, oui.
Non, pas du tout. Non,
de votre appétit, pardon.
Non, mais des fois, on est complices, on travaille, on essaye d'avancer ensemble.
Oui, puis on vit ensemble pendant plusieurs semaines, donc autant que ça se passe bien.
Voilà.
Ça a toujours été le cas.
Oui, toujours. Mais ça me dérange pas, moi, de pas m'entendre avec un autre acteur, même si on doit faire semblant de s'entendre. Hein. L'important, c'est le travail. C'est le moment, voilà. Après, les gens, on n'est pas obligé
d'être
chemise à tous les coups. Ouais. Hein.
On a beaucoup parlé de théâtre tout à l'heure, et là, il n'y a aucun projet au théâtre. C'est étonnant.
Non, je cherche, mais pour l'instant, ça va, j'ai pas le temps.
Vous cherchez ou...
Oui, je cherche un peu.
Vous aimeriez...
Je lis, je réfléchis, je me demande.
Attendez, si vous lisez, si vous réfléchissez, ça veut dire que vous voulez carrément monter un projet. C'est-à-dire aller voir un metteur en scène, un producteur en disant...
Je cherche une idée. J'aimerais un truc original. Je sais pas. C'est mystère encore.
Vous savez même pas le genre.
Mais j'aimerais bien après être pendant 2 ans au théâtre, ça m'irait bien après. Ouais. Ben, je peux pas vous le dire.
Bah si, vous pouvez.
Vous pouvez au moins dire parce que ça n'existe pas.
Ah, oui, ça va être délicat.
C'est pas la peine que je vous dise qu'elle parle de quelque chose qui n'existe pas.
Non, mais vous pouvez me dire si c'est une comédie, si c'est un drame, si c'est un classique ou si c'est au contraire une création.
C'est sympa. C'est génial.
T'auras rien, tu peux y aller.
C'est sympa, si j'ai eu, c'est sympa.
Mais ça va faire peur. Ah enfin, bon. Ah. Bref. En tout cas,
donc vous savez exactement,
évidemment, évidemment. Donc elle a trouvé. Elle a trouvé. Il n'y a plus qu'à trouver quoi ? Un producteur, un théâtre qui accepte de prendre le risque ?
Oui, oui, bah, oui.
Mais et vous êtes seule en scène.
Il n'y a pas de texte encore, vous voyez, faut écrire.
Ah oui, ça fait, c'est ça qui fait peur, c'est qu'il n'y a pas de texte.
La vraie trouille, c'est ça, quoi.
Il n'y a pas de texte.
Des excuses à présenter, Daniel
Morin. Oh, que oui. Désolé pour Nagui et Leïla qui ont découvert ce matin, grâce à notre invitée Catherine Fro, que l'émission était préparée. Ouais, ouais, les feignasses, il était grand temps. Désolé pour Catherine Fro qui a découvert ce matin que Nagui et Leïla ne préparaient pas l'émission. Ouais, les glandeurs, vous êtes démasqués. Désolé pour nos auditeurs fidèles qui ont été choqués d'entendre à ce micro une personne sensible, remplie d'humanité, comédienne humble qui réfléchit, la formidable Catherine Fro. Je vous rassure, on revient à nos fondamentaux demain avec Alban Ivanov.
Oh, t'es méchant.
Désolé pour Monsieur Kadour Boudadi qui a découvert, qui à mon avis a plutôt eu la confirmation ce matin, que selon madame, un couple c'était trois personnes. Alors, on se connaît
grâce
pas.
À mais... Isabelle Duvernoy,
on
ouais.
se connaît pas, monsieur, mais vous allez voir, je suis très doux à ce soir.
Oh mon dieu. Je sais que c'est quand même moi qui choisis.
Ouais, c'est toujours la femme. C'est toujours la femme qui choisit, absolument. Merci Catherine Faux de nous avoir choisi d'être venue à ce
Merci.
Micro.
Bah, avec plaisir.
Qui même me suivent, Merci. C'est mercredi prochain au cinéma, signé José Alcala avec Daniel Auteuil et Bernard Lecoq. Et en effet, demain, c'est Alban Ivanov qui sera notre invité.